Bonjour, bonjour à tous. Voilà, Parlons Terroir démarre aujourd'hui une émission spéciale sur le pôle territorial Cœur Entre Deux Mers qui couvre 5 communautés des communes, c'est-à-dire 95 communes, 100 000 habitants qui vont des portes de Bordeaux à la limite du Lot-et-Garonne, près de Duras, dont le sujet aujourd'hui porte sur le projet territorial alimentaire Cœur Entre Deux Mers. Aussi, je reçois Alain Monger, qui est président du pôle territorial Cœur Entre Deux Mers. Il nous présentera le contexte de ce pôle territorial à travers son évolution, les états d'avancement du projet alimentaire qui vient d'être labellisé par le ministère de la Culture. Nous allons l'avoir par téléphone incessamment sous peu. Dans les studios, je reçois José Martin, qui est élu de Montussan, vice-président du pôle territorial, en charge du projet territorial alimentaire. Il témoignera de son expérience sur l'observatoire du foncier agricole du Cœur Entre Deux Mers en tant que commune pilote, donc la commune de Montussan. Également Laurent Corde, qui est maraîcher à Sadira, qui nous présente son projet de vente à la ferme par la création d'un magasin et l'organiser au niveau du pôle territorial la mise en relation entre acheteurs des cantines scolaires, fournisseurs locaux, via un programme leader, vaste programme, mais dont les enjeux sont relativement importants. Et puis nous aurons Julien Léris de l'association des jardins partagés de Pomarède à Langoiran, sur le terrain communal de Langoiran, qui souhaite s'inscrire dans une démarche de création de réseaux de jardins partagés sur le Cœur Entre Deux Mers, et nous l'aurons aussi par téléphone. Donc on démarre tout de suite avec Alain Monger. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Alors, nous sommes donc en direct dans les studios, depuis les studios de Radio Entre-deux-Mers. On va parler du pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers. Alors c'est quoi au juste le pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers?
Alors le pôle territorial en fait est une structure de coordination qui regroupe en fait 5 communautés de communes. Oui. C'est un vaste territoire qui part en fait des portes de Bordeaux et qui va venir jusqu'aux portes du Lot-et-Garonne. En fait, on regroupe les communautés de communes de Saint-Loubès, des coteaux bordelais, des portes de l'Entre-deux-Mers, le secteur de la Traîne, du Créonnet et puis la communauté de communes de la rurale, Entre-deux-Mers, c'est-à-dire le secteur de Targon et de Sauveterre-de-Guyenne. En fait, c'est un territoire qui est composé de 90 communes et qui représente un bassin de population de plus de 100 000 habitants.
C'est énorme.
Voilà, donc c'est vrai que c'est un territoire important, avec des enjeux notamment en termes d'attractivité du territoire, en termes d'urbanisme, en termes de développement économique important, et puis où les enjeux de l'agriculture sont des enjeux qui ont toujours été prédominants, mais qui aujourd'hui prennent des dimensions toutes particulières.
Alors à quel niveau à ce moment-là?
Alors on voit qu'on est sur un territoire où le fil conducteur est l'activité notamment viticole. La viticulture est en fait le dénominateur commun à l'ensemble du territoire. Mmh. Que l'on a eu une transformation en 40 ans de l'agriculture, on est passé d'un modèle de polyculture élevage à un modèle quand même très spécialisé sur une grande partie de notre territoire en surface viticole. Mmh. C'est vrai que c'est un territoire donc où l'économie agricole et viticole est prédominante, et notamment en termes de retour en termes de PIB, mais également de nombre d'entreprises et d'emplois. Et c'est vrai que c'est un enjeu aussi important parce que ce contexte agricole et viticole est actuellement, et malheureusement on le voit en souffrance,
oui,
notamment autour de la problématique de la viticulture. Voilà, donc, et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, le pôle territorial s'est engagé dans une réflexion autour des enjeux de l'agriculture et puis depuis 3 ans a porté le débat également sur les enjeux alimentaires. Pour pouvoir répondre à un certain nombre d'interrogations, notamment des collectivités, mais également des consommateurs et des citoyens.
On a eu l'occasion de le voir. Déjà, vous aviez abordé, il y a 2-3 ans, on a fait une émission à ce niveau-là, la durée, finalement, vis-à-vis d'une ville comme Bordeaux, en alimentaire, c'est relativement limité au niveau de... Je crois que c'est de l'ordre de 1 ou 2 jours, non? C'est ça?
Ouais, exactement, oui.
Et on la voit en plus avec la crise économique, où finalement, on va le voir, là, on va redémarrer à partir de demain. La nourriture, c'est quand même la base.
Exactement. Mais c'est vrai que ces notions, en fait, que beaucoup ont appelées d'autonomie alimentaire, on l'a calculé, nous, pour notre territoire du cœur Entre-deux-Mers, et on a calculé que l'autonomie alimentaire était de 21 jours. Ça veut dire que le bassin de population pourrait être nourri pendant 21 jours, et puis le reste de l'année, il faut trouver des ressources à l'extérieur. Et c'est vrai que ce chiffre est assez révélateur. Et donc, à un moment où on parle beaucoup d'enjeux de souveraineté alimentaire pour le pays, mais également pour nos territoires, la question en fait de l'agriculture et de l'alimentation ont pris depuis quelques années tout leur sens. Et c'est vrai que malheureusement, la crise que nous traversons du Covid a encore plus affirmé ces notions de dépendance alimentaire et cette nécessité de prendre en compte des enjeux de relocalisation d'un certain type de production alimentaire pour essayer de valoriser des débouchés qui sont la plupart du temps locaux et de proximité.
Parce que le pôle territorial, il y a un enjeu alimentaire, mais il n'y a pas que.
Alors, c'est vrai que l'enjeu agricole et alimentaire, pour nous, il a été identifié au départ, et c'est pour ça qu'on a souhaité se lancer dans un projet alimentaire de territoire, parce qu'il y a 3 ans, on sentait bien qu'il y avait une kyrielle d'initiatives sur le territoire, soit portées par des communes, par exemple, qui souhaitaient développer l'approvisionnement en produits bio et locaux au niveau de leur cantine scolaire, d'autres qui voulaient s'intéresser à essayer de favoriser l'installation de l'agriculture, d'autres qui voulaient relancer des marchés ou des marchés de producteurs, des initiatives également de consommateurs qui voulaient créer soit des jardins partagés, soit essayer de favoriser l'émergence de magasins de producteurs, ou bien d'AMAP notamment. Et c'est vrai qu'on avait senti il y a 3 ans une nécessité de pouvoir essayer de donner une cohérence par rapport à cette problématique de l'alimentation et d'essayer de mettre autour de la table les principaux acteurs concernés pour définir un projet alimentaire de territoire. Quand je dis les acteurs, c'est-à-dire d'un côté les collectivités, d'un autre côté les acteurs du monde agricole, les agriculteurs, les producteurs, et puis d'un troisième côté les consommateurs et également les citoyens, parce qu'un projet alimentaire de territoire ne peut pas être porté que par une seule catégorie de personnes, mais a besoin de pouvoir fédérer et matcher un certain nombre de choses. Voilà, ça c'était l'enjeu de notre projet alimentaire de territoire, et puis on a beaucoup travaillé pour après se déterminer un certain nombre d'actions opérationnelles pour essayer de démontrer que c'est un enjeu pour le territoire, mais que collectivement il faut arriver à mettre en place un certain nombre d'actions pour à terme faire que ces 21 jours d'autonomie alimentaire, on puisse essayer de l'augmenter. Alors on sait que cela va prendre du temps, mais on a besoin de mettre en face en fait l'ensemble des acteurs, les parties prenantes de ces problématiques-là.
Alors, en tant que pôle territorial, vous avez d'une part, on va aborder surtout cet aspect-là, le projet alimentaire territorial, mais vous avez d'autres missions.
Oui, alors, le pôle territorial, en fait, est une structure qui
comme
la nation et qui travaille en concertation avec les communes, les communautés de communes au niveau du territoire, et va venir offrir des services mutualisés. C'est-à-dire que dans certains cas, sur certaines problématiques, une communauté de communes seule ne peut pas forcément porter un certain nombre d'actions et va trouver dans la mutualisation à l'échelle donc, de notre territoire des réponses et des accompagnements. Donc c'est clair que le cœur de métier du pôle territorial, ça va être notamment le développement économique. Et malheureusement, on le voit dans le contexte actuel, ça prend d'autant plus tout son sens, c'est l'accompagnement donc des entreprises et l'attractivité économique de notre territoire. Donc c'est un travail important qui est mené en concertation avec les communautés de communes qui sont compétentes sur l'enjeu économique. On est également très présent sur les notions en fait de gestion des fonds européens. dont vous parliez dans votre introduction des fonds leaders, c'est-à-dire il y a des programmes de contractualisation avec la région et l'Europe pour venir soutenir un certain nombre de projets, soit de collectivités, soit privées, dans les domaines notamment de l'agriculture, de l'alimentation, mais pas que, du tourisme, de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un vecteur important. On a également une présence, un accompagnement autour des questions et des enjeux de l'urbanisme et du foncier. Et on a un service droit des sols, qui est un service d'instruction des permis de construire et des documents d'urbanisme pour le compte des communes. Donc c'est un volet important et des services qui sont apportés à plus de 48 communes de notre territoire et puis une communauté de communes qui a fait le choix de passer en plan local d'urbanisme intercommunal. On va être également très présent sur des enjeux de contractualisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le développement territorial va s'appuyer sur des contrats entre l'État et des territoires, la région et les territoires, ou le département et les territoires. Et le pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers joue ce rôle d'interface pour le compte en fait de notre grand territoire au regard de ces partenariats financiers. On parle de contrats de ruralité, on parle de contrats de cohésion et de dynamisation, et c'est en fait une sorte de booster de financement public, notamment. Voilà, donc ces enjeux-là sont des enjeux importants. Et le dernier enjeu qui est celui d'aujourd'hui de votre émission, mais les enjeux agricoles et alimentaires, font partie également d'une priorité d'intervention et d'action. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un pôle territorial doit avoir une logique de développement à l'échelle du territoire, de développement économique, mais également environnemental et sociétal. Et ça, c'est également important. Et on porte un projet que l'on a bâti, notamment avec les communes, les communautés de communes, qui s'appelle Ambition 2030, qui est là pour structurer, en fait, le développement d'un territoire commun et nous donner un certain nombre d'axes d'intervention. Par exemple, des questions qui sont très cruciales, les enjeux autour de l'énergie, et autour de l'environnement, des enjeux autour de l'urbanisme à l'échelle de notre territoire, ou d'autres sujets comme les enjeux autour des contrats locaux de santé. Voilà, ce sont des thématiques sur lesquelles le pôle territorial doit être un interlocuteur privilégié.
Tout à fait. Ça veut dire que à la fois transition écologique, santé, urbanisme, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont fédérateurs à ce niveau-là. Alors, on va peut-être revenir sur l'aspect alimentaire. Donc, un des premiers que vous aviez déjà identifié, enfin, en dehors hein, du reste, mais il y a déjà 3 ans, on sait que vous avez travaillé avec les 3 acteurs qui étaient à la fois producteurs, collectivités et puis citoyens, consommateurs. Et donc, il était ressorti d'abord l'Observatoire du foncier, c'est ça ?
Oui, alors, il était déjà ressorti une volonté commune de tous ces acteurs de travailler ensemble et d'essayer de partager une vision commune autour de ces enjeux agricoles et alimentaires. Alors je rappelle ça parce que c'est clair que ça peut sembler évident et nécessaire actuellement, mais il y a 3 ans, on n'était pas forcément peut-être dans cette trajectoire aussi aiguë qu'actuellement. Et c'est vrai qu'autour de cette volonté d'un diagnostic partagé, on a pu notamment définir les grands axes de notre projet alimentaire. C'est-à-dire, on s'est dit, il faut qu'on puisse travailler autour des enjeux du foncier. Parce qu'on ne peut pas parler d'alimentation sans parler d'agriculture et sans parler de production alimentaire sur un territoire. Donc on a eu et on a un axe important autour de ces enjeux du foncier, mais qui doivent favoriser demain le maintien d'agriculteurs, d'accord, et de favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs. Et derrière tout ça, on voit, c'est le sujet de la disponibilité d'un foncier agricole qui puisse être opérationnel pour ce type d'action. Après, on a un deuxième axe que l'on porte avec notamment les acteurs agricoles, c'est comment on peut accompagner la performance économique et environnementale des exploitations. Voilà. Et donc, c'est clair que les problématiques environnementales étaient déjà dans le viseur depuis quelques années. Malheureusement, les problématiques économiques sont de plus en plus cruciales par rapport à l'agriculture de notre territoire. Quand on voit la filière viticole, quand on voit la filière d'élevage ou d'autres filières, c'est vrai qu'on a des filières sous tension. Et on a besoin d'avoir un regard collectif avec les organisations professionnelles agricoles en la matière. On a un troisième enjeu qui s'était dessiné assez rapidement, c'est l'enjeu autour de la santé, de l'éducation et de l'accessibilité alimentaire. Vous allez recevoir tout à l'heure Julien Léris sur les problématiques de jardins partagés, ça en est une illustration. Mais l'enjeu de pouvoir rendre accessible à tous une alimentation de proximité de qualité est un défi que nous devons tous porter au quotidien. Et c'est un travail qui nécessite beaucoup de rapprochements, notamment avec les CCAS, les Centres communaux d'action sociale ou les CIAS, et puis un certain nombre d'acteurs autour des solidarités alimentaires. Et puis le dernier enjeu qui était un enjeu, qui reste toujours un enjeu, je dirais, structurant, c'est un enjeu autour de la restauration collective et du gaspillage alimentaire. La loi EGalim, il y a 2-3 ans, a donné comme objectif d'avoir un approvisionnement de proximité autour de produits bio et de produits sous signe de qualité, autour de 50% et de 20% de produits bio à l'horizon 2022. Donc, pour les collectivités qui ont charge et un certain nombre d'acteurs qui ont en charge la restauration collective, c'est également des défis importants et on a beaucoup travaillé depuis 3 ans sur ces axes-là. Et autour donc de ces axes-là, ben, on a défini déjà un certain nombre d'actions opérationnelles, que ce soit, comme vous le dites, au niveau du foncier agricole ou par exemple la restauration collective.
Donc c'est un chantier qui est en cours, mais qui va demander du temps.
Oui, parce que une fois qu'on s'est donné donc nos enjeux, la difficulté c'est la traduction concrète des actions et de faire avancer un certain nombre de problématiques. Donc c'est clair que sur notamment les enjeux de foncier agricole, mais vous en parlerez tout à l'heure, comment on peut aborder la notion et engager la réflexion sur la valorisation, la conservation, la préservation des terres agricoles. Nous, on a imaginé, on a expérimenté des observatoires communaux de foncier agricole, parce que l'on pense que c'est un enjeu important, mais qui doit se faire au plus près du terrain. C'est un travail chirurgical qui prend énormément de temps, mais qui doit passer forcément par une volonté à un échelon communal. On a également travaillé avec les partenaires que sont la SAFER HME Culture pour pouvoir activer notamment de nouveaux outils comme des conventions de stockage de foncier qui doivent permettre à des collectivités d'activer et de faciliter un petit peu cette acquisition foncière. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Si on prend l'exemple de la restauration collective, il a fallu, pour certains cas, essayer de mettre en relation d'un côté la production et d'un côté ceux qui fabriquent les repas. Voilà. Et donc c'est un travail aussi de maillage et de réseau, et puis de formation d'un certain nombre d'acteurs. On le voit, c'est assez technique et compliqué, mais les procédures de marché public ne sont pas toujours idoines et facilitantes pour ce type d'enjeu. Donc on a également accompagné une quinzaine de collectivités pour faciliter un petit peu ces notions d'approvisionnement de produits bio locaux. On a fait également des rencontres avec les citoyens autour de ciné-débats autour de thématiques autour de l'agriculture, parce que ça nous semble important. Organiser des rencontres acheteurs et distributeurs, voilà, c'est quelques-unes des actions qui sont portées, je dirais, au quotidien et qui vont devoir dicter et jalonner notre action pour les 6 prochaines années. Avec une urgence, on le voit bien, les problématiques que l'on vit maintenant de relocalisation sont de plus en plus prégnantes et donc il faut l'avoir en tête pour pouvoir répondre à des attentes, notamment les attentes de consommateurs, de citoyens sur le territoire.
Voilà, c'est l'objet du projet alimentaire territorial. Bien, merci Alain Monger de nous avoir éclairé finalement sur cet aspect finalement à la fois les différentes missions du pôle territorial, puisque c'est quand même pas 5 000 habitants, c'est quand même 5
communautés. Si je peux me permettre un dernier point, que cette démarche autour de l'agriculture et de l'alimentation que l'on veut très ouverte et très partagée, en fait on a obtenu la reconnaissance, on va dire le label du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc qui a validé en fait et qui nous accompagne maintenant officiellement dans notre démarche de projets alimentaires territoriaux. Je le souligne parce qu'on est précurseur sur le département de la Gironde, parce qu'il n'y a que 2 territoires à avoir obtenu cette labellisation. Le Cœur Entre-deux-Mers, et également donc la communauté de communes de l'estuaire, autour du Blayais. Voilà, donc ça montre également qu'on est accompagné par l'ensemble des collectivités, le département, la région, les services de l'État, pour engager en fait un immense chantier, un immense défi, mais qui est aussi un défi de société et un défi économique, environnemental pour notre territoire.
Très bien. Merci Alain Monger.
Voilà, très bonne émission.
Merci.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Voilà, on a entendu Alain Monger, président du pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers, nous a brossé finalement les différents aspects de ce pôle territorial, dont le projet alimentaire territorial. Et j'ai dans les studios José Martin, qui est élu de Montussan et vice-président de ce pôle, en charge du projet territorial alimentaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Montussan, on pourrait situer, on est aux portes de Bordeaux, là, Montussan.
Voilà, nous sommes dans la deuxième couronne de Bordeaux, avec une forte augmentation de population. Nous avons 2500 habitants, nous arrivons vite à 3000 et 3500 dans les 6 prochaines années, je crois qu'on va y avoir droit. Donc, avec toutes les contraintes que ça impose, bon, on y travaille, voilà, pour accueillir toute cette population.
Et là, vous êtes vous-même, vous êtes viticulteur.
Et je suis viticulteur, oui, sur les communes de Saint-Loubès et Montussan.
Alors, ça veut dire que Montussan, il y a à la fois de l'urbanisme et puis des vignes.
Oui, il y a quand même 450 hectares de vignes sur Montussan, ce qui représente 60% du territoire. Donc, on a effectivement, il y a 30 ans, il y avait 900 habitants. Hein, il faut pas. Montussan s'est beaucoup développé. Appris sur des prairies et sur de la vigne. Et il faut surveiller aujourd'hui cet équilibre parce que bon, on a une telle pression foncière que les propriétaires agricoles souhaitent qu'une chose, c'est passer inconstructible. Il y a des enjeux économiques forts.
Alors justement là-dessus, vous avez mis en place un observatoire, ce que disait Alain Monger, un observatoire du foncier agricole. Alors c'est quoi ?
Alors ce foncier agricole, eh ben, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture et la SAFER, qui ont été nos deux partenaires là-dessus. Et nous, eh bien, on a créé une petite équipe à Montussan d'élus pour visualiser sur des cartes de Montussan à la parcelle. On a été jusqu'à la parcelle pour voir où était, donc on avait décliné ça en plusieurs étapes. Première étape, identifier tous les propriétaires agricole, qu'il soit viticulteur ou agricole dans un autre domaine, l'élevage, l'alimentaire ou quoi que ce soit. Donc on a identifié tout le monde. Ensuite, on a ciblé ce que l'on appelle les friches, les friches agricoles, pour voir quel potentiel, qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que bon, ben, nous, derrière, l'idée, c'est d'installer un jeune agriculteur, voilà, pour répondre au PAT, à l'enjeu que vous a expliqué Alain Monger tout à l'heure. Donc on a analysé ça. On s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de friches sur Montussan. Alors, que veulent en faire les propriétaires? On ne sait pas. C'est la deuxième étape. On verra ça un peu plus tard. Ensuite, on a analysé toutes les strates de la population agricole. On s'aperçoit qu'on a beaucoup d'agriculteurs, viticulteurs et agriculteurs qui ont plus de 60 ans, donc avec des problèmes de succession, de que va devenir cette exploitation. Donc, on suit ça de près pour aider, bien entendu, ces personnes-là. Soit c'est facile, il y a un enfant qui reprend et là, bon, ça se passe bien. Soit ce n'est pas le cas et il faut y réfléchir pour savoir qu'est-ce que va devenir cette exploitation.
Alors d'autant plus qu'on est dans une... Alors vous avez deux handicaps, vous avez une commune qui est en plein urbanisme et deuxième handicap, une viticulture qui est en pleine crise.
Voilà, effectivement. Parce que non seulement on a, donc comme je vous ai expliqué, 450 hectares, mais dans ces 450 hectares, on en a 80% qui sont en viticulture. Donc ça représente un très très gros volume. Et là-dessus, on a quelques viticulteurs qui arrivent, comme moi, à un âge de 65 ans, et on aimerait passer la main, et le problème, bon, c'est que c'est très difficile. Voilà.
Et en plus, là, on parle plutôt au niveau viticulture.
Alors la viticulture, mais la viticulture, elle est en gros gros problème, parce que bon, on a participé à la restructuration du vignoble bordelais, avec tous les enjeux, le cahier des charges, ainsi de suite. Donc on a bien compris tous les enjeux qu'il y avait sur produire un vin de qualité sur le Bordeaux. Donc on a été, je crois, performant, on a été dans ce sens-là. Malheureusement, être viticulteur, ça ne veut pas dire être marchand de vin. Ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes compétences. Et un viticulteur, lui, ce qu'il sait faire, c'est travailler la terre et faire du bon vin.
Surtout, en plus, avec les enjeux environnementaux, on est de plus en plus en haute qualité environnementale, on est vers le bio, on est quand même beaucoup parti vers là.
Exactement.
Alors, ça veut dire que déjà, nécessité de la part du viticulteur d'évoluer, d'adapter tous les temps.
Voilà. Alors, bon, le viticulteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise, malheureusement, les produits qui sont sur le marché. Il ne faut pas se le cacher. Donc, sur le marché, pour l'instant, on avait des produits MCR qu'il a fallu bannir. Bon, c'est normal.
Oui, quand on dit MCR, ça veut dire que c'est des produits qui peuvent provoquer des mutations, cancers, etc.
Voilà.
C'est pour ça que ça a été supprimé.
Donc, ça a été supprimé et le viticulteur, il en est conscient parce que le premier en contact avec ces produits, c'est lui. Voilà. Sûr. Voilà, parce que bon, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il n'y avait pas de tracteurs et des cabines. Et quand le traitement se passait, on ne traitait pas le jour où il n'y avait pas de vent, ainsi de suite. Et quand on traitait, ben, on en prenait aussi, excusez-moi du terme, mais plein la poire.
Ouais, plein la figure. Et alors là, de ce côté-là, donc, la crise viticole perdure déjà depuis 2-3 ans. Et on est à l'ère de la distillation et bientôt de l'arrachage.
Alors, on est à l'ère de la distillation. Oui, il faut comprendre que bon, on a une surproduction par rapport à notre capacité de vente. Donc, on a produit 5 millions d'hectolitres et on est capable d'en vendre 3,5. Donc, ça, depuis 2 ans. Donc, ce qui fait que dans les chais, on a des vins en stock de 2018, 2019, la récolte 2020 qui vient de rentrer, et on n'a aucune visibilité là-dessus. Et, deuxième effet qui n'arrange pas la situation, l'effet Covid, qui fait que la restauration se ferment, nos clients potentiels, eh bien, s'ils n'ont pas de clients, ils ne vont pas acheter du vin. Donc là, il y a un gros souci.
Voilà. Et alors là, de ce côté-là, vous avez, si je reviens un petit peu sur l'observatoire du foncier agricole, vous avez donc identifié les friches, identifié peut-être demain, il y aura peut-être des vignes qui vont être arrachées, donc il va falloir peut-être voir à ce niveau-là. Donc, vous êtes en train de préparer au niveau de votre commune qui va être pilote, un cahier des charges pour ensuite le présenter sur l'ensemble du pôle territorial.
Exactement. Donc, il y a 5 communes qui sont pilotes, une par CDC. Mmh. Et l'objectif, c'est de définir une méthodologie pour la transférer aux autres communes. Donc, nous, on a eu la chance de travailler avec tous nos partenaires. On a eu aussi les étudiants d'AgroBio.
Bordeaux-Sens-Agro, oui.
De Bordeaux-Sens-Agro, qui nous ont aidés. C'est eux qui ont été rencontrés, les propriétaires. C'est eux qui les ont sondés. Donc, on a eu aujourd'hui ce résultat. Maintenant, nous, en tant qu'élus, on a notre responsabilité à prendre. Il va falloir prendre notre bâton de négociateur pour aller rencontrer ces propriétaires et voir que deviennent ces terrains. Voilà. Donc ça, une fois qu'on aura la méthodologie, cette méthodologie, eh bien, sera transférable aux communes qui souhaitent s'investir là-dessus. Donc on a déjà, dans les nouveaux élus, il faut savoir qu'au pôle territorial, il y a 90% de nouveaux élus qui ont une fibre sensible verte et qui ont des projets d'agriculture locale. Et ils nous sollicitent, donc il faut répondre assez rapidement à leurs objectifs. Donc, on a un petit coup d'avance, mais très peu, quoi.
Oui, tout à fait. Bon, parce que là, c'est pas évident. De toute façon, la première chose, c'est quand même le vendeur,
C'est lui qui décidera.
Surtout, on a parlé de pression immobilière.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, on a aussi... Je vais pas dire qu'on est pressé de tous les côtés, mais presque. Parce qu'on a aussi l'État qui ne veut pas que nos communes explosent. Ça se comprend. Et heureusement qu'on a ce garde-fou. Donc ce qui fait que l'État, par rapport au SCOT et ainsi de suite, nous a dit au niveau de notre CDC, vous allez pouvoir construire 250 logements. Mais sur une CDC où nous avons 28 000 habitants, qui est très grande, avec des communes qui touchent la métropole, voyez l'attrait pour des nouveaux arrivants qui vont travailler à la métropole, ils aimeraient bien habiter pas trop loin de leur boulot, et pas trop loin de leur boulot, ben, c'est Ivrac, Sainte-Eulalie, Saint-Sulpice-Caveyrac, Saint-Loubès, Montussan, Béchac et Caillou, donc ce qui fait que nous avons une grosse pression. Mais on a ce garde-fou qui nous dit, bon, attention, vous ne pouvez pas lâcher la bride et puis tout transformer en zone constructible, heureusement.
Voilà. Oui, parce qu'en plus, il y a quand même énormément de terres agricoles qui disparaissent chaque année, qui finissent...
Malheureusement trop.
L'équivalent d'un département de la Gironde qui disparaît tous les 10 ans en France. Hein. Donc c'est énorme. Donc c'est là, il s'en irait temps de réagir et de faire justement ce fameux observatoire et de mettre en place ces aspects-là. Sachant que l'enjeu est grand, puisque on a parlé tout à l'heure, 21 jours, hein, c'est ça ?
21 jours d'autonomie alimentaire, ouais. Si on devait se nourrir qu'avec les produits locaux, effectivement.
Et Bordeaux, c'est 2 jours, hein, je crois.
C'est 2 jours. Ouais, ouais. Alors, on a quand même un double effet, c'est qu'effectivement, nous avons 21 jours d'autonomie alimentaire, mais cette alimentation, elle n'est pas consommée sur notre territoire. Nos partenaires qui produisent, leurs clients, c'est la métropole. Voilà, donc il va falloir, nous on a bien compris, nous en tant qu'élus, ce phénomène, mais il va falloir aussi comprendre qu'il faut aider à l'installation d'agriculteurs pour répondre aux besoins alimentaires de notre population locale.
Oui, c'est voilà. Ça. Alors, par rapport à ça, on a eu l'occasion d'en parler, parce que ça va redémarrer. Il y a eu les drives fermiers. Alain Monger était le fondateur des drives fermiers en Gironde et après en France. Mais il n'y a pas que les drives fermiers, il y a plein de choses qui sont montées, cagette.net, etc. Donc on a quand même une évolution, on en parle peut-être avec les maraîchers. Mais, donc il y a une évolution, une prise de conscience. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand la crise s'en va, hop, tout de suite, on va au supermarché. Alors qu'il faut surtout éviter au supermarché. Quoi.
Ben oui, et puis on a des pressions dans tous les sens. Parce que le gros souci qu'on aura, et nous l'avons mesuré, nous, au pôle, le gros souci, ça sera l'habitat de ce futur agriculteur. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'on va installer un agriculteur sur une surface, il ne va pas pointer comme il pointe au bureau, comme il pointe à l'usine, je dirais, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut qu'il loge sur place pour surveiller sa production.
Oui.
pour surveiller sa production. On ne va pas pouvoir laisser un hectare, par exemple, je vais dire un exemple, de salade, et lui, à 18h du soir, il rentre chez lui, à Senon ou à Lormont, elles vont devenir quoi, ces salades ?
Oui, tout à fait.
Voilà,
oui.
Donc on a bien mesuré tous ces problèmes-là. Et nous y travaillons. Nos objectifs, c'est bien entendu d'arriver à installer des agriculteurs alimentaires sur notre territoire.
L'enjeu est grand.
Hein. Mais l'enjeu est très grand et le challenge est très intéressant.
On va peut-être faire une pause musicale.
J'étais gosse, je rêvais de tout, de pouvoir voir de près la lune, de gambader un peu partout, de voir ce qui se cache derrière les dunes. J'ai même rêvé d'être agriculteur, de vivre là-haut entre ces deux fleurs, les yeux béants restés rivés sur les couleurs d'un arc-en-ciel. J'avais la bouche en forme de cœur, j'embrasse une vie au goût de miel. C'était un monde imaginaire, je croyais même aux bons hommes verts et aux petits lutins. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. J'ai fait mon sac, mon baluchon, j'ai pris mes feutres et mes crayons. À chaque problème sa solution, je n'avais qu'une seule ambition, celle de chanter la vie des autres. J'ai fait ce choix d'être des vôtres et de penser les plaies des uns. Je n'attends plus ce bel apôtre, et si le destin choisit le bien, je ferai ce que je pense et ce qu'il me plaît, en faisant vivre ce doux espoir. Quand d'autres exploitent le désespoir qui plane sur l'être humain. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. De tous les rêves que j'ai construits, que reste-t-il au fond de moi? Ces vieilles photos, ces lourds émois que j'ai classés par utopie. Si tu entends aussi cette voix, c'est qu'on est tous un peu comme toi. Le bel enfant s'est endormi dans le train-train de la petite vie. La belle Alice nous a menti sur les merveilles de son pays. À mes idées, je reste fidèle, car après tout la vie est belle, et on verra demain. Un matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin.
On poursuit au niveau du pôle territorial alimentaire avec Laurent Corde, maraîcher à Sadirac. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes maraîcher. Alors, dans votre parcours de vie, je crois que vous étiez viticulteur au départ.
Oui, 10 ans avant, oui, viticulteur.
Et après, finalement, on en parlait tout à l'heure, le problème de la vigne, vous avez anticipé déjà le problème viticole et vous avez arraché la vigne pour faire des légumes.
Voilà, avec des incidents climatiques qui m'ont permettait plus de continuer, donc j'ai arraché les vignes, et bon, pour remettre en état la propriété, j'ai planté des légumes.
Mmh. Et là, vous faites quoi comme légumes ?
Et donc, je fais des pommes de terre, je fais entre 1 et 3 hectares, ça dépend des années, de pommes de terre et autant de courges. Mmh. Et je me suis aperçu que bon, j'alimentais les biocopes sur Bordeaux, mais bon, ça fait 10 ans, même étant viticulteur, je pensais déjà faire un magasin, pour permettre justement aux maraîchers qui étaient mal placés, mal positionnés sur le territoire, de voir un point de vente où il y avait du passage et on pouvait avoir une visibilité. Mmh. Et donc de créer ce magasin permettrait que les maraîchers puissent alimenter ce magasin et en même temps stocker chez moi pour fournir les collectivités. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec le pôle
Oui, intéressant par rapport, justement, c'est l'enjeu, il est grand, puisque c'est arriver à rapprocher, finalement, les cantines scolaires, parce que ça nécessite aussi de la formation au niveau des cuisiniers, parce que c'est plus facile d'avoir Sodexo, etc., hein, parce que là, mais bon, le produit, il vient soit d'Argentine, soit... Enfin, il n'est pas local, hein, en règle générale. Alors, c'est vrai qu'on est parti dans une démarche, c'est comme... avoir des tomates, le Bordelais il va avoir des tomates, les tomates partent de Marmande, partent à Paris et pour venir, enfin bon, voilà, et comme pareil pour le porc, enfin, tout passe par un schiste, enfin bon, voilà, on marche sur la tête, c'était les notions de filière, voilà. Donc on est en train de voir un petit peu une approche différente, transversale, donc ça nécessite de rencontrer des maraîchers. Donc vous avez des maraîchers dans votre secteur ?
Oui, il y a des maraîchers, mais il y a beaucoup de petits maraîchers qui se sont installés ces 2-3 dernières années, qui voudraient alimenter la restauration collective, mais qui n'ont pas assez de volume. Donc le fait de se regrouper permettrait de pouvoir planifier et de fournir ces collectivités.
C'est ça, parce que l'idée c'est de faire une plateforme quand même.
Voilà, tout à fait.
Ouais. Parce que, bon, après, les cantines, ça nécessite quand même du volume, une quantité en plus régulière, avec la problématique des vacances scolaires, comme en ce moment, mais, les cantines, à part s'il y a un centre loisirs...
Pour répondre à ça, depuis l'année dernière, on travaille avec un laboratoire de transformation sur Saint-Loubès, d'ailleurs. Et donc on a même essayé l'année dernière, c'est la première fois sur la région que ça se fait, on fait des pommes de terre sous vide, en bio, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant, enfin dans la région du moins. Et ça nous permet justement de conserver des légumes et de pouvoir passer ces périodes de vacances.
Et oui, c'est ça. Oui, parce qu'en plus l'été, il faut arriver à joindre les 2 mois d'été où il n'y a pas de... En plus, cette année, avec le Covid, bonjour.
Voilà, tout à fait. Hein.
D'ailleurs, ça remet en cause beaucoup de choses. Bon, le télétravail, on était à fond pour le télétravail, mais ça ne se faisait pas. Là, maintenant, comme par hasard, ben, le télétravail, il marche trop, peut-être. Bon, il ne faudrait pas trop revoir un peu les choses. Enfin, bon. Mais de la crise naît le progrès. Donc, de ce côté-là...
Mais on a vu que pendant le confinement, les gens ont été directement chez les agriculteurs, chez les maraîchers.
Et même qui étaient prêts à payer cher, hein. Moi, j'ai eu des cas ici.
Ils payaient très cher. Ouais. Ouais. Et on a vu qu'après, au déconfinement, ils sont retournés dans les magasins, dans les grandes surfaces.
Les mauvaises habitudes.
Mais on s'est aperçu quand même qu'il y avait un pourcentage quand même qui sont restés sur les magasins de producteurs. Et d'où l'intérêt, nous, de créer ce magasin qui soit bien placé. Parce que les gens ont besoin de trouver les légumes de producteurs, mais ils ne peuvent pas aller chez tous les producteurs, ils n'ont pas le temps. Donc l'idéal, c'est de regrouper à un seul endroit.
Voilà. Et là, c'est avec un financement, on a parlé tout à l'heure de financement européen, Leader, c'est ça ?
Voilà, il y a des subventions
de fonds européens,
on a fait
du FEDER.
Voilà.
D'accord, du fonds européen, de plan économie rurale, notamment le programme Leader 2. Et de ce côté-là, c'est pour permettre... Alors, vous avez identifié les cantines scolaires sur le... Parce que c'est grand, quand le pôle territorial, on a dit que c'est 95 communes, 100 000 habitants, 5 communautés des communes.
Avec le pôle, il y en a un demi, il y a eu une réunion, justement, avec des collectivités. Et ça se fait petit à petit, quoi, parce que toutes les collectivités ne sont pas prêtes encore à prendre des légumes directement chez les producteurs.
Oui, bien sûr.
Mais ça commence de plus en plus. Quoi. Il y a beaucoup de cuisiniers qui travaillent avec nous.
Alors, on a parlé tout à l'heure, il en a abordé Alain Mouget, le gaspillage alimentaire. Et je crois que quelque chose qui est important, c'est que si c'est un produit qui est local et bien abordé, déjà...
On s'est aperçu, justement, à cette réunion, il y avait une personne, un cuisinier, qui, 4-5 ans avant, ne voulait pas passer en bio dans ses cuisines, parce qu'il y a trop de contraintes de préparation, enfin, on parlait. Et bon, il a essayé quand même. Et là, maintenant, il ne démord plus du bio parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait moins de retours dans les assiettes des enfants et moins de gaspillage. Donc, c'est quand même... Et donc, le prix du repas ne revient pas plus cher.
Oui, c'est ça. tout à fait. Donc, là aussi, c'est appuyé par le pôle territorial, votre action.
Oui, tout à fait.
Pour ensuite les semer sur l'ensemble du pôle, carrément.
Je ne sais pas, on en est au tout
les début. Les petits ruisseaux, on est entre deux mers. Hein. Les petits ruisseaux, il faut aller à la rivière. Hein. Donc on est bien là-dessus. Oui, ouais, tout à fait. Bon, mais écoutez, je crois qu'il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un franc succès par rapport à votre démarche. Et on va passer avec... on a une autre personne qui doit être au téléphone en ce moment, qui est sur Bordeaux, et qui, lui, s'occupe d'une association de jardins partagés de Pomarède à Langoura, sur un terrain communal de Langoura. Et lui, le fait d'avoir développé un jardin partagé, il travaille déjà avec Centre et Loisirs, avec, bon, c'est quand même assez animé. Il cherche à créer un réseau de jardins partagés sur tout le pôle Cœur entre deux mers. Il s'appelle Julien Léris et je crois qu'on va l'avoir très prochainement à l'antenne puisqu'il nous attendait. Voilà. Allô ?
Oui, bonjour.
Alors, on était justement on parlait de maraîchage, de produits bio, etc. Vous êtes à l'origine d'une association de jardins partagés à Langoura, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Les potagers partagés de Pomarède.
Alors, c'est quoi ce jardin partagé ?
En fait, l'association a été créée en juin 2016 à l'initiative de la mairie de Langoura et d'un groupe d'habitants. Et donc, la mairie a mis à disposition un terrain gratuitement pour l'association pour créer donc une zone de jardin partagé pour que chacun puisse cultiver ses légumes, ses fruits, et puis aussi créer du lien social entre les habitants.
Quand vous dites ses fruits, c'est que vous avez mis également un verger.
Voilà, on a en fait, dans le fonctionnement, chaque adhérent a sa propre parcelle, puisque suivant les types de jardins partagés, des fonctionnements diffèrent. Donc chacun chez nous a sa parcelle, peut cultiver à sa guise, dans le respect de l'environnement évidemment, et tout le monde est dans ces démarches-là est plutôt adepte.
Oui, c'est-à-dire qu'on va on va pas traiter à trop de bras. Oui, je
me doute. Voilà, tout à fait. C'est que
surtout que là, c'est ce qu'on mange. On le mange après derrière, donc je me doute. Voilà. La parcelle, c'est des parcelles importantes qui sont.
Alors on a des parcelles de différentes tailles suivant les envies de chacun. Donc voilà, chacun fait ses cultures et ensuite on a des zones communes dont vous en parliez. Le verger collectif qu'on est en train d'amorcer depuis 2-3 ans. Et chaque année, on essaye de rajouter quelques arbres pour donner quelque chose de grand et puis d'arriver sur un bon entretien de toute la nature qui est autour de nous.
Quand on dit verger, vous avez quoi comme essence ?
Alors, on travaille que avec des essences locales puisqu'on tous nos investissements, on va dire, sur les fruitiers sont faits avec l'association des vergers régionaux.
Oui, c'est-à-dire le conservatoire d'espace végétal de Montesquieu.
Tout à fait régional, oui, tout à fait.
D'accord.
Et donc on a mis figuier, pêcher, on a des framboisiers, des cassissiers, des groseilliers, on a pommiers, on a un plaque minier également. Et après on a en perspective de développer sur d'autres essences pour avoir quelque chose d'assez varié.
Et alors là, par rapport à ça, ça c'est un verger qui est collectif là.
Tout à fait, cette partie-là fait partie des zones collectives, parce que en fait chacun va pas avoir son propre verger. Mais on a voulu avoir cet aspect verger collectif pour souder aussi les adhérents entre eux, les faire avoir des actions collectives, et aussi pour favoriser la diversité locale et attirer aussi tous les insectes et les amis des potagers.
Et alors là, vous êtes combien d'adhérents dans votre association là ?
Alors actuellement, on a une quinzaine d'adhérents.
Oui. Et ça évolue depuis le début. Vous êtes
Oui, on est en progression tranquille depuis 2016. Donc oui. Là, effectivement, la période de confinement de début d'année a un petit peu compliqué les choses pour certaines personnes.
C'est dommage parce que c'est au contraire. Ça veut être si on est confiné, on va au jardin, quoi.
Ah, au départ, c'était compliqué. Maintenant, on a de plus en plus de demandes, effectivement, suite à cette période de personnes qui ont envie. De retrouver dire le chemin de la terre, de savoir ce qu'ils mangent, et aussi d'avoir un peu une certaine autonomie par rapport à tous les soucis qu'il y a, notamment les soucis économiques qui sont présents clairement pour certains, et du coup avoir son propre potager permet aussi d'avoir de faire des économies alimentaires et de pouvoir manger mieux et manger sain aussi.
C'est bien connu que ce qu'on appelait les jardins ouvriers, qui s'appellent les jardins familiaux maintenant, c'est un 13e mois, hein, au niveau l'équivalent d'un 13e mois. Qui ont été d'ailleurs labellisés comme bien national par le Sénat il y a quelques années. Alors, de ce côté-là, vous avez mis en place un règlement intérieur, je crois.
Oui, nous avons, oui. En fait, le fonctionnement, c'est que la mairie met à disposition gratuitement le terrain auprès de l'association. Et ensuite, oui. L'association s'engage à encadrer l'utilisation du terrain et son aménagement. Et donc, pour ça, il y a un règlement intérieur qui lie chaque adhérent avec l'association pour tous les aspects du fonctionnement et de l'intervention des adhérents et des extérieurs liés à l'adhérent dans le cadre des parcelles qui nous sont attribuées.
D'accord. Et alors après, de ce côté-là, vous organisez des animations par rapport à ces jardins partagés?
Alors c'est notre but de pouvoir communiquer à la fois en interne entre les adhérents pour les souder et avoir une démarche collective de travail ensemble, de travail en commun, parce que c'est aussi l'intérêt, c'est pas d'être tout seul dans sa parcelle, mais c'est aussi de créer du lien social, créer du lien d'expérience, d'échange d'expérience entre les personnes, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins aguerris à certaines techniques, à certaines manières de faire, mais aussi s'ouvrir sur l'extérieur, à la fois pour attirer des nouveaux membres, mais aussi pour juste faire parler de ce que l'on fait, expliquer aussi le fonctionnement, la saisonnalité des productions, pourquoi on a des tomates une période et pas en plein hiver.
Et oui, bien sûr.
Comme ça. Mmh. Et donc montrer aussi aux gens qu'on peut aussi bien manger à côté de chez soi et avoir une action positive sur son environnement immédiat.
Au niveau pédagogique, vous travaillez également avec, je crois, un centre et loisirs, non? À côté de chez vous, vous avez des actions qui sont...
Oui, on a assez rapidement, on a eu le souhait de toute façon de tous les adhérents qui étaient présents à ce moment-là et maintenant de faire du lien avec la commune, avec les habitants et les composantes de la commune. Et de par notre emplacement, on est juste à côté, dans le parc de Pomaret, juste à côté des écoles de Langoiran. Mmh. Et on a eu le renfort et le complément du centre de loisirs de la communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers, qui est venu s'installer juste à côté de nos parcelles. Donc ce qui nous permet à la fois d'avoir des échanges avec les enfants dans le cadre scolaire, puisque une des parcelles à l'intérieur des potagers partagés est réservée exclusivement aux écoles. Donc ils peuvent venir intervenir pour préparer la terre, planter, voire pousser, éventuellement récolter. Mais aussi en amont, dans l'école, ils ont un travail autour des plantations, de la décoration des jardins, du fonctionnement des jardins, puisqu'on leur fournit aussi des graines et du matériel quand c'est nécessaire. Et après, ils peuvent venir sur place, du coup, voir l'évolution de tout ce qu'ils font. Et on est en lien aussi avec ces enfants dans le cadre du centre de loisirs et avec d'autres enfants qui sont d'autres écoles, puisque eux aussi ont une grande, énorme parcelle de près de 200 mètres carrés sur lesquelles ils travaillent autour de ces mêmes approches de jardinage. Et parfois, quand ils sont là et qu'il y a des adhérents sur le site des potagers partagés, du coup, ils sortent de leur espace et ils viennent dans nos parcelles pour qu'on leur présente qui est planté, ce qui pousse, les fleurs, les plantes, les décorations qu'on a mis en place, des choses comme ça.
Et alors là, après, c'est des échanges de recettes, non? Le lien social?
Alors après, on fait en sorte de participer à pas mal de manifestations qui ont lieu sur le territoire, que ce soit le marché de Noël à Langoiran en décembre, la fête des associations, le comice agricole par exemple, ou des trocs de graines. Et à cette occasion, on montre ce que l'on fait, on propose, on offre des graines, on échange, et on essaie d'expliquer aussi comment travailler autour des produits, comment les préparer, et quel est, voilà. Et donc par exemple, sur le marché de Noël, on fait des dégustations de différentes soupes qui sont faites à partir des productions que l'on a sur nos terrains.
Donc là, vous créez non seulement du lien, mais en plus, c'est l'alimentaire qui est au bout, quoi.
C'est l'alimentaire, parce que souvent, notamment pour les populations les plus défavorisées, souvent, la question est, j'ai un potiron, j'en fais quoi? J'ai ça, j'en fais quoi? Comment je le traite pour l'utiliser? Et du coup, la facilité, c'est de prendre des produits tout faits industriels,
qui
sont plus chers que des produits frais, acheter chez les producteurs, sur les marchés ou grande surface aussi, parce que c'est fait un des éléments. Mais souvent, ça part là-dessus. Donc, il faut expliquer aux gens et montrer que ce qu'on peut faire, comment, à quel point c'est facile à faire, et qu'au lieu d'acheter des choses toutes faites avec des produits chimiques dedans, on peut faire du naturel moins cher et nettement meilleur pour nous, en sachant que si si on arrive à faire ça, ça permet d'aller vers les enfants, et les enfants sont les consommateurs de demain. Et si dès maintenant ils apprennent à la saisonnalité des produits, à transformer les produits, à les goûter, ben, pour demain ils auront une nettement meilleure alimentation, et ce sera que du bénéfice pour eux, mais aussi pour la nature globalement, parce qu'ils seront beaucoup plus en lien avec leur terroir.
On avait perdu pendant 20-30 ans, on avait perdu finalement le lien de la terre.
C'est largement, mais par la force des choses et la pression sociale et économique, tout le monde était parti beaucoup plus sur du consumérisme, du capitalisme. Et là, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on a un besoin de retour à la terre. Et c'est vrai que sur les dernières années, beaucoup de la transmission a été beaucoup moins faite entre les parents ou les grands-parents et les enfants et les petits-enfants sur cette notion de culture de la terre, parce que tout le monde partait dans les villes. Donc, il n'y avait pas forcément cette possibilité d'avoir l'aspect, le lien à la nature et au jardinage. Et maintenant, les gens viennent de plus en plus à la campagne. On voit l'essor démographique des campagnes. Et il faut, je pense, surfer là-dessus pour pouvoir réapproprier la terre à la culture, à l'alimentation. Parce que c'est un tout, et c'est comme ça que l'avenir, pour nous, doit être fait.
Alors, quelque chose d'important, c'est que les déchets verts, vous proposez aux habitants de déposer un endroit parce que vous, c'est votre matière première, c'est le broyat déchets verts pour faire de l'humus.
Alors, on est en train de travailler dessus. C'est un projet sur lequel on travaille depuis un certain temps avec différents partenaires, comme les services techniques de la mairie d'Angoiran et les CEMOPCOM. Voilà, on a pour but, d'ici la fin de l'année, si tout va bien, malgré ce nouveau confinement, d'arriver à ouvrir un espace d'accueil de déchets verts, que ce soit des branchages, de la tonte, des plantes globalement, pour pouvoir créer du compost, à la fois pour nous, mais aussi éventuellement, selon les quantités, pour pouvoir en redonner aux gens qui nous font des apports eux-mêmes. Et tous ces branchages, l'utiliser à la fois pour du broyage et faire du paillis, mais aussi pour créer des haies sèches qui vont permettre à la fois de protéger des vents dominants, et aussi de créer des habitats pour les animaux, les insectes qui vont venir se protéger quand c'est nécessaire.
La surface de ce jardin partagé, de quoi au juste, ça fait combien de surface ?
On est à peu près sur 2000 m². Mmh. Alors tout n'est pas utilisé actuellement, hein. On a encore de la surface accessible pour les nouveaux adhérents et adhérentes qui viendront nous rejoindre. Et après, on travaille parmi ces mètres carrés. On a une partie donc de verger collectif, une partie de parcelles individuelles. On a aussi une partie d'espace de jeu pour les enfants, qui en général est assez peu courant dans les jardins partagés. Ce qu'on a voulu dès le départ, avoir un espace pour que les enfants puissent à la fois venir travailler la terre, se rendre compte un peu de ce que c'est, puis s'amuser là-dedans. Mais aussi, parce qu'on en est conscient qu'au bout d'un moment, ils ont envie aussi d'avoir des jeux d'enfants. Donc mettre un espace dédié aux enfants. Et après, notre espace collectif, on l'a complété de manière plus classique, on va dire, avec un espace de récupération de l'eau de pluie, parce que notre volonté est d'être en circuit logique et être cohérent avec nous-mêmes. Donc on n'amène pas de l'eau de la ville.
Tout à fait, en autonomie.
Exclusivement avec la récupération d'eau de pluie.
Tout à fait. Et alors là, ce que vous cherchez, donc déjà votre association de jardin partagé à l'Angoiran marche très bien, mais ce que vous cherchez, c'est créer, par le biais justement de ce pôle territorial, c'est de créer un réseau de jardins partagés sur le cœur entre deux mers.
Mais tout à fait. Nous, notre volonté au départ était de créer du lien avec d'autres structures similaires en jardins partagés, jardins familiaux ou autres, pour pouvoir avoir des échanges d'expériences, voir qui fait quoi, comment, bénéficier de l'apport des autres, organiser aussi plus facilement peut-être des cours de jardinage, des techniques de jardinage, parce que mobiliser un intervenant pour un jardin partagé, c'est une chose, le mobiliser sur une année pour 3, 4, 5, 6 interventions dans différents lieux, c'est autre chose, on a une autre capacité aussi d'attractivité, mais c'est aussi organiser des événements en commun, faire du lien. On pense que dans les premiers trucs, choses qui peuvent être faites, c'est par exemple des journées portes ouvertes communes à l'ensemble des jardins partagés de l'entre-deux-mers pour valoriser la présence, ce qui est fait chez les uns les autres. Et donc c'est vrai que quand on a eu l'échange avec les personnes du pôle territorial, ils nous ont parlé de cette volonté de créer un réseau. Et donc, qui correspond tout à fait à nous, ce que l'on cherche, parce que pour nous, L'esprit des jardins partagés, c'est la nature, mais c'est aussi le lien entre les personnes, que ce soit d'une même commune ou de communes différentes, et donc ça correspond totalement à ce qu'on peut, rechercher dans notre éthique.
Très bien. Mais merci Julien Léris de nous avoir finalement abordé ces jardins partagés. Nous a fait finalement, partager votre passion de finalement de transmettre cette notion de consommation, de lien social et de, surtout de créer par la suite de réseau de jardins partagés.
C'est important de pouvoir se lier et échanger entre nous et entre tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant plutôt que de s'isoler les uns les autres. C'est d'échanger ensemble, même pour des gens qui ne veulent pas jardiner, c'est toujours intéressant d'échanger avec eux parce qu'il y a toujours des choses à apprendre de tout le monde.
Très bien, merci Julien Léris.
Merci beaucoup, et puis j'espère que nous aurons d'autres adhérents qui viendront nous voir pour apprendre plus. Et puis surtout qu'ils n'hésitent pas, on a une page Facebook pour nous contacter, les potagers partagés de Pomarède.
Voilà, donc l'émission sur le pôle territorial Cœur entre deux mers s'achève. On a entendu Alain Mogi qui nous a brossé l'ensemble des missions de ce pôle territorial, avec surtout quelque chose aujourd'hui qui était le projet alimentaire territorial. On a entendu José Martin, qui est élu de Montussan, qui est en charge justement de l'Observatoire du foncier agricole, Cœur entre deux mers. Laurent Corde, de maraîcher à Sadirac, qui met en réseau entre acheteurs de cantines scolaires et fournisseurs locaux, donc maraîchage et pas que, avec un programme leader à ce niveau-là. Et Julien Léris, maintenant, l'association des jardins partagés de Pomarède de l'Anguara, sur la création d'un réseau de jardins partagés. Voilà, l'émission s'achève, on finit avec Ovincer sur ton tracteur. La musique était un peu liée justement à ce pôle territorial alimentaire, donc l'agriculture et puis tout ce qui est alimentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Tu revois ton père avec sa cotte sur le pont à 6 heures du mat, et sur la table une petite note. Sois sage fiston et fais tes maths. N'embête pas trop ta mamie, tu seras gentil de l'aider un peu. Je serai là pour midi et demi, pile poil pour le pot-au-feu. Dont tu te rappelles encore l'odeur quand t'as les crocs sur ton tracteur. Dont tu te rappelles encore l'odeur sur ton tracteur. Si t'as baigné dans une culture, c'est bien dans celle des haricots que tu équetais à la dure sur une pile de vieux journaux. Mamie, elle tricotait un pull en écoutant l'ancienne France Bleue. Tu le mets toujours d'ailleurs ce pull, disons que ça te la ramène un peu. Comme l'émission de 17h que tu écoutes sur ton tracteur. Tout comme l'émission de 17h sur ton tracteur. J'ai toujours aimé la moisson, et puis j'étais pas bien matheux. Je me suis construit une belle maison à 200 mètres de chez mes vieux. Je suis à la tête de l'entreprise aujourd'hui, et j'en suis fier. À la télé ils parlent de crise, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de la terre? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? Dans les bureaux des rédacteurs, ont-ils déjà vu un tracteur? C'est déjà la nuit sur ma cambrousse. Je retire mes bottes, ma salopette. Mon fils suce encore son pouce, mais il s'occupe déjà des bêtes. Il aime pas bien les haricots et encore moins les équeutés. Il y a de plus en plus de vieux journaux, toujours un pull à tricoter. Et moi je me dis tout en bâillant qu'il faudrait que je dorme quelques heures et que peut-être dans 15 ans ce sera mon fils sur mon tracteur.